en Luc, au chapitre 12, au verset 1 à 3. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Ceci est la parole du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que ta parole éclaire nos cœurs. Et merci aussi parce que cette parole doit être proclamée autour de nous pour que les gens puissent goûter de ton amour. Envoie ton Esprit Saint pour que nous puissions mieux la comprendre et mieux la diffuser. Amen. Amen. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. C'est incroyable. Les gens veulent voir Jésus qui enseigne à aimer son prochain comme soi-même, et ce texte souligne que pour le voir, finalement, ils ne se respectent pas entre eux. Ce petit détail a attiré mon attention, et surtout le mot « fouler ». Le mot grec peut aussi être traduit par « piétiner ». Ce verbe n'évoque pas la douceur, mais la violence avec les gens se précipitent vers Jésus. Ce verset me laisse penser que leur prochain passe après leur personne. Ils sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils en viennent à se piétiner ou se fouler les uns les autres pour voir Jésus. On peut se poser cette question, est-ce que la foule est vraiment intéressée par l'enseignement de Jésus ou est-elle juste intéressée de savoir comment échapper à l'enfer ou à l'Empire romain ou être guérie par lui. Cette situation de piétinement, de se fouler, me fait penser finalement à ce qui s'est passé cette semaine. Je ne sais pas si vous avez regardé les informations.
Lidl.
Lidl, voilà. Lidl vendait des ventilateurs et les gens voulaient tous leurs ventilateurs. Ils venaient à se pousser, à se piétiner. Ils se sont tellement poussés que la porte d'entrée d'un Lidl s'est effondrée par terre. Ma femme passait pour aller au travail, elle voit une foule de voitures, etc. Elle me dit, il doit y avoir quelque chose à Lidl, là, parce que les gens se précipitent dans Lidl. Est-ce dans cette ambiance que les gens sont venus écouter le Christ? Il me semble que oui. Le monde en 2000 ans n'a pas changé et les gens sont toujours repliés sur eux-mêmes. Ils se piétinent pour obtenir ce qu'ils désirent. Cependant, dans cette scène de piétinement, Jésus ne va rien dire sur la foule. Il aurait pu dire quelque chose. Alors, quand je regarde The Chosen, le mec aussi en évidence, on voit tous ces gens qui se poussent vraiment pour aller vers Jésus, et Jésus qui laisse faire les choses. Et on voit les disciples qui sont un peu énervés, parce que eux, il faut qu'on respecte tout, il faut qu'on respecte le Christ, etc. Mais le Christ laisse la foule aller vers lui. Et là, Jésus ne s'en prend pas après cette foule qui se piétine, mais il va s'en prendre après les pharisiens. Et les pharisiens, eux, ils ne devaient sûrement pas se piétiner. Alors là, à mon avis, ils ne se piétinaient pas, ils devaient venir comme ça, car les gens devaient s'écarter un peu des pharisiens, parce que, vous comprenez, pour le peuple, les pharisiens étaient saints, c'était la sainteté. Alors, ils paraissaient bien. Dans leur apparat, on savait que c'était des pharisiens, ils étaient habillés d'une certaine façon, etc. Et eux, ils étaient vraiment sages, d'un point de vue humain. Et Jésus va critiquer les pharisiens. Alors la réponse peut sembler un peu simplette, Mais si Jésus s'en prend aux pharisiens, c'est parce que Jésus aime les gens qui vivent à la lumière, c'est-à-dire la vérité. Dieu aime les gens sincères. La foule vit ce qu'elle est vraiment. Elle est pécheresse et elle ne se cache pas de son péché. Quant aux pharisiens, ils ont l'apparence d'hommes pieux, nous dit Jésus, mais en réalité, ils sont hypocrites. L'hypocrisie, c'est une attitude qui consiste à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas, pour se présenter sous un jour favorable et inspirer la confiance. L'exemple, l'hypocrisie de la société mondaine. Donc, je l'ai pris sur le dictionnaire. Les pharisiens faisaient croire au peuple, par leur attitude, qu'ils étaient saints. Mais en vérité, nous dit Jésus, ils cachent beaucoup de choses au peuple. Et un jour, tout sera révélé. Voici la prière d'un pharisien, que l'on trouve en Luc 18, 11. Le pharisien, debout, prie ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Cette prière, vous l'avez comprise, elle est orgueilleuse, car elle se compare aux autres en disant que eux, finalement, ils sont bien meilleurs qu'eux. Ils s'élèvent devant ces gens simples. Une telle prière ne plaît pas à Dieu. Car cette prière se sert des autres pour camoufler nos péchés. Je suis meilleur qu'eux. Donc finalement, eux sont pécheurs, mais moi je ne le suis point. Comme vous le savez sûrement, je faisais avant partie de la Croix Bleue. Et on m'expliquait que pour être délivré de l'alcoolisme, la première chose était de reconnaître sa dépendance à l'alcool. Et beaucoup d'alcooliques vivent dans l'hypocrisie. Et ils ne veulent pas révéler qui ils sont. Même un jour, quelqu'un était venu vers moi rempli d'alcool et avait eu des gestes déplacés. Et quand je suis venu le voir, il est venu s'excuser. Et je lui ai dit, oui, mais c'est pas de ta faute, tu étais sous l'effet de l'alcool. Et il s'est mis à crier en disant, non, 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 je ne suis point alcoolique, je n'étais pas sous. Une telle attitude ne lui permettra pas de sortir de l'alcool. La première chose à faire, c'est de le reconnaître.
De chasser l'esprit démoniaque de l'alcool.
Voilà, mais avant de le faire, on en reviendra, Gérard, il faut le reconnaître.
Excuse-moi.
Il n'y a pas de souci. Voilà, mais tant qu'ils vivent dans l'obscurité, ils ne peuvent pas être guéris. La première étape de la guérison, c'est de vivre dans la lumière, c'est-à-dire de reconnaître devant les autres qu'ils sont alcooliques. Et vous l'avez compris, le lien avec le péché. Si je cache mon état d'homme pécheur, je ne peux être délivré. Voici maintenant la prière du publicain. Cet homme que le pharisien critiquait. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Cet homme avait compris que devant Dieu, il était coupable. Et il ne cherchait pas à se justifier de son péché. Il le reconnaissait et il demande pardon. Et le pardon de Dieu descend sur lui. Et cette aide que cet homme a reçue est décrite dans ce passage de Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé pour lui. Verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » L'erreur à éviter, c'est de cacher nos erreurs pour que personne ne les voit. Dans les ténèbres, on peut dissimuler beaucoup de choses. Mais dans la lumière, il est plus difficile de le faire. Du coup, forcément, il est difficile d'aimer la lumière, et si nous sommes trop orgueilleux, ou si nous avons trop peur de décevoir les autres, on va préférer rester dans les ténèbres et continuer à se mentir à soi-même et aux autres. Et quelquefois, on se rend même plus compte qu'on est pécheur à force de dissimuler notre état d'homme pécheur. Les pharisiens ne se rendaient même plus compte de leur état de pécheur parce qu'ils s'étaient persuadés eux-mêmes, finalement, qu'ils étaient saints. Mais à la rencontre du Christ, à la rencontre de cette lumière, certains ont accepté de voir leurs défauts et d'autres se sont mis dans l'opposition et ont refusé de tout voir. Jésus nous appelle à l'humilité. Son pardon et son Saint-Esprit est le seul moyen de transformer l'homme pécheur que nous sommes. Mais ce qui est difficile, c'est que la plupart du temps, nous ne nous rendons pas compte de notre orgueil. Le comble, c'est qu'il arrive fréquemment qu'une personne orgueilleuse se croit humble. Quand j'étais plus jeune, je pensais être humble et j'étais complètement orgueilleux. Mais j'étais persuadé d'être un homme humble. Tellement que mon orgueil était grand. Alors comment pouvoir sortir de ce cercle vicieux? Eh bien, par une simple prière. Cette prière que je fais pour moi-même et que vous pouvez faire pour vous-même. Je suis par nature une personne orgueilleuse. Aide-moi, Seigneur, à changer et remets-moi sur le chemin de l'humilité si j'en suis sorti. Cette simple prière nous permet de nous remettre sous la lumière du Christ et d'accepter par la suite si quelqu'un vient nous voir et nous dit « Je pense, mon frère, ma sœur, que ce que tu fais n'est pas bon. » Pour ce qui est d'avoir peur de décevoir Jésus, parce que ça aussi, c'est une grande crainte qui nous empêche de vivre tel que nous sommes. Certaines personnes pensent qu'une fois qu'ils sont baptisés, qu'ils deviennent chrétiennes, ils doivent être parfaits. Et du coup, on va dissimuler tout le petit truc qui ne va pas, on va le cacher, on va essayer de paraître comme la personne la meilleure du monde. Et ça ne va pas. Et ça ne va pas. Il est important d'être conscient que Dieu nous aime et il sait que nous sommes pécheurs. C'est pour cela qu'il est venu dans le monde. Si nous étions sans péché, il ne serait pas venu. Jésus est venu dans le monde car il savait que le monde avait besoin de lui pour être sauvé. Il n'est pas venu pour le condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Notre péché ne lui fait pas peur. Au contraire, on le voit avec la foule. La foule n'est pas condamnée par Jésus. Ce sont les pharisiens, parce qu'ils camouflent, parce qu'ils cachent leur péché, qui sont condamnés par Jésus. Mais la foule qui ne le cache pas n'est pas condamnée. Jésus n'est pas dérangé par notre péché ou nos mauvais comportements. Parce qu'il sait qu'il est venu pour nous aider à changer de vie, grâce à son enseignement et à son Saint-Esprit. Ce qui dérange vraiment Jésus, c'est l'hypocrisie des pharisiens qui se croient meilleurs que le peuple. Leur hypocrisie empêche le Saint-Esprit de les guérir. Jésus ne peut rien faire pour eux. Alors si tu as l'impression d'être moins bien que les autres, c'est peut-être que les autres dissimulent bien leur état d'homme et de femme pécheresse. Car nous le sommes tous. Voici une histoire de la Bible d'une femme qui se croyait être la seule pécheresse. Jean 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit dire cela, accusé par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et cette phrase, elle est très importante. « Je ne te condamne pas », donc c'est-à-dire que Dieu ne nous condamne pas pour notre état d'homme et de femme pécheresse. Et ensuite, « Va et ne pêche plus ». C'est-à-dire que Jésus nous demande de quitter notre état d'homme pécheur, de progresser. Il ne nous dit pas « T'es pécheur, c'est bon ma fille, c'est bon mon fils, continue à vivre dans le péché, etc. » Non. Il dit « Je te comprends, je t'envoie mon Esprit Saint pour qu'il t'aide à progresser sur ce chemin de sanctification. Va, fais-moi confiance, appelle-moi à l'aide. » Et je vais venir t'aider à te transformer. Le but de cette prédication n'est pas de dire vous êtes pécheur, continuez à vivre comme cela, à faire n'importe quoi. Non, non, là, on n'aurait rien compris. C'est oui, nous sommes pécheurs, ne le cachons pas, Dieu nous aime, mais Dieu va nous transformer pour être des créatures merveilleuses à son image. La différence entre un chrétien et une personne qui ne l'est pas, ça va être un peu bizarre, mais ce ne sont pas ses œuvres, mais c'est son chemin de sanctification. Parce que un chrétien qui vient à Jésus, alors quelquefois il a cette grâce, c'est merveilleux, Jésus le délivre de tout. Et il est complètement nouveau, il arrête l'alcool, il arrête le tabac, il arrête la pornographie, il arrête tous les trucs qui ne sont pas bons. Voilà. Mais à d'autres, ça ne se passe pas comme ça. Et souvent, c'est comme ça. Et tout part progressivement. Voilà. Et on devient des créatures merveilleuses progressivement. C'est ce qu'on appelle le chemin de sanctification. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus se mettre la pression. « Ah, t'es un chrétien, tu fais pas, tu dis là, gnagnagna. » Non, non. Tu es chrétien, tu as des soucis. Jésus veut t'aider. Je suis là. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble pour que Dieu t'aide à changer, à que tu n'aies plus une mauvaise langue, à que tu fasses plus de la calomnie, ou que tu fasses plus ceci ou cela, mais toujours dans l'aide, dans l'amour et non la condamnation, dans l'exhortation. Exhorter, c'est difficile, hein, la différence entre exhortation et condamnation, mais l'exhortation, je vais dire à la personne ce qui ne va pas, mais dans le but de prier avec elle et de l'aider à changer. La condamnation, je vais dire ce qui ne va pas et je vais la renvoyer vers le bas en lui disant tu es une mauvaise personne. C'est pas parce qu'un frère en Christ vient te voir et te dit, ben voilà, dans tel et tel endroit, tu n'es pas bon, qu'il te critique. Non, c'est de l'exhortation si derrière il veut prier avec toi et il veut t'aider à t'en sortir. Le Seigneur nous aime malgré nos imperfections et il désire, avec notre accord, nous aider à nous purifier jour après jour par sa grâce imméritée, parce qu'il nous aime et qu'il s'est livré à la croix pour chacun d'entre nous. Prions. Seigneur, je te bénis et je te dis merci parce que tu es venu dans ce monde pour nous aider à lutter contre le péché. Tu es venu dans ce monde pour vaincre le péché qui est en nous, pour nous délivrer de ce péché. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes sincères, à ne pas cacher notre état, pour que toi, Seigneur, tu puisses venir et nous délivrer, Seigneur, de tout ce qui est mauvais en nous. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Nous allons continuer par...